Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal avec Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, le gouverneur de province a effectué une visite à Rutshuru ce dimanche où il a échangé avec les forces vives et les déplacés. Le lieutenant-colonel-lieutenant-général Constant Dima a réussi à faire annuler la marche pacifique qui était prévue pour demain, mais à condition qu'une solution soit trouvée rapidement aux préoccupations de la population. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention informe a informé le Conseil des ministres vendredi dernier de la situation qui prévaut au Nord Kivu en rapport avec le décès d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola. Docteur Jean-Jacques Mungani a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises pour éviter le pire. L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Docteur Hans Batei s'est réjoui du bilan satisfaisant de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, le gouverneur de province a effectué une visite à Rutshuru ce dimanche où il a échangé avec les forces vives et les déplacés qui ont fui la guerre du M23. C'était dans le but de calmer les mécontentements exprimés par celles-ci pour dénoncer l'insécurité, la guerre et l'occupation de ces entités par ces rebelles. À l'issue d'un dialogue avec toutes les couches sociales, le lieutenant-général Constant Dima a réussi à faire annuler la marche pacifique qui était prévue pour demain lundi à l'initiative de la société civile et autres mouvements de pression, mais à condition qu'une solution soit trouvée rapidement. C'est notamment celle de chasser les rebelles de M23 dans un bref délai et permettre à la population déplacée de regagner son milieu, a affirmé le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Mabazé. Voici plutôt un extrait de la déclaration du gouverneur Constant Dima.
Aussitôt de mon séjour à Butembo, j'avais appris que nos compatriotes de Rutshuru se mettaient en manifestation aussi. Ils voulaient manifester contre le laxisme ou la position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous leur disons tout de suite que la guerre n'est pas un jeu d'enfant. Quand il s'agit de la guerre, le cas de notre pays aujourd'hui agressé, ce n'est pas de cette façon-là que nous devons agir. Agissant de cette façon, c'est-à-dire nous faisons le jeu de l'ennemi, pourquoi pas le lit à l'ennemi. Et ce n'est pas facile, c'est pourquoi je viens dire à mes compatriotes de Rutshuru de rester calme et surtout à la retenue. La marche est annulée, nous nous sommes adressés à nos compatriotes et ils nous ont compris. J'ai entendu dans la salle le slogan de ne pas laisser un centimètre de notre territoire à l'ennemi. Mais c'est vrai. Qui est ce Congolais aujourd'hui, un patriote, laisser son centimètre de terrain à l'ennemi? Ça, même pas aujourd'hui, même non, Zaïre, fils, ne nous pardonneront pas.
Notez qu'à l'issue de ce dialogue avec les leaders locaux, le gouverneur du Nord Kivu s'est exprimé devant une foule composée, entre autres des déplacés portant des banderoles, avec des messages pour dénoncer la souffrance qu'ils traversent dans les lieux de refuge par manque d'assistance du gouvernement et exiger le retour dans leur village d'origine. Pendant ce temps, un calme relatif est signalé sur les lignes de front samedi et dimanche, a affirmé le porte-parole des opérations. Nord Kivu encore, plusieurs projets de développement mis en œuvre par l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN en sigle, notamment la société Virunga Energy en faveur de populations se retrouve paralysée à la suite des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. C'est notamment des projets environnementaux, énergétiques, touristiques et agricoles. Ces affrontements ont un impact considérable sur le parc national de Virunga, mais aussi sur le tissu socio-économique de la région. L'ICCN demande la sécurisation de ces installations et de son personnel afin de lui permettre de poursuivre sa mission. Les points avec Gumaté.
En plus de sa mission de conservation de l'environnement dans les parcs de Virunga, l'ICCN est un acteur majeur de développement local. Emmanuel Bouende, son chargé de communication, cite entre autres le tourisme et la production et distribution de l'énergie électrique.
Avec ces centrales de Matebe, Mutwanga et Luviro qui sont actuellement opérationnelles, ainsi que la centrale de Rwanguba qui est en pleine construction, le parc national de Virunga est impliqué dans l'agriculture durable et la pêche. Le parc national de Virunga est impliqué dans l'accompagnement des les entrepreneurs.
Emmanuel Bouende ajoute que les affrontements depuis novembre 2021 dans une grande partie du parc et notamment dans les secteurs Mineco rendent difficile la continuité de ces projets, notamment la destruction de ces installations enregistrées récemment à Rwangouba.
Vous avez suivi, nous avons publié un communiqué faisant état de deux bombes qui sont tombées sur les sites du chantier de la centrale de Rwangouba, qui nous a obligés à évacuer les personnels une énième fois. L'ICC n'est pas parti au conflit et demande donc la sécurisation de ses installations ainsi que son personnel afin de lui permettre de poursuivre sa mission de conservation.
Emmanuel Bouende parle des manques à gagner réels, les ralentissements des activités économiques sans oublier l'impact environnemental causé par ces affrontements.
Et dans le territoire de Lubero, plusieurs factions du groupe milicien Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, ont érigé des barrières illégales et instauré des taxes, notamment dans la chefferie de Bassoa et le secteur de Bapiri. Cette situation non seulement impacte négativement le social de la population, mais également constitue un manque à gagner pour le trésor public, indiquent les acteurs de la société civile dans la région. Plus de précisions avec Alain Hirung.
Nos sources dans la région renseignent que ces Maïmaï UPLC ont érigé une barrière à Biamboué dans le groupement Manzia à la limite entre la chefferie de Bachoa et le secteur de Bapéré. Ici, ils font payer au moins 1000 francs congolais à tous les usagers de cet axe routier. Une autre barrière est érigée à Liboyo où ils demandent au moins 500 francs aux passants. À Kambao et Biloulou sont érigés des camps de ces miliciens Maïmaï qui organisent des travaux communautaires communément appelés Salongo chaque jeudi. Les habitants qui ne s'y exécutent pas sont sommés de payer des amendes forfaitaires qui vont jusqu'à une chèvre ou plus. À Vuinga, dans la chefferie de Bachoara, ils se sont carrément substitués au service de l'État en instaurant des taxes illégales aux habitants et opérateurs économiques, affirment des acteurs de la société civile dans la région. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, qui confirme ces faits, dit d'abord regretter le comportement de ces miliciens dont les leaders ont participé récemment aux consultations de Nairobi. Toutefois, il affirme avoir déjà remonté la question au niveau de sa hiérarchie en vue d'envisager des dispositions utiles. L'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est l'une des solutions à ce problème, reconnaît le colonel Alain Kiwewa.
En Ituri, en l'espace de 2 semaines, 20 personnes ont été tuées et plus de 10 villages vidés de leurs habitants. Tel est le bilan des exactions des rebelles des ADF sur le tronçon Komanda Mambasa. Selon la nouvelle société civile congolaise qui lui rapporte ce dimanche, la plupart des victimes sont des cultivateurs de cacao, colcas, maïs et des ignames sauvagement abattus dans leurs champs. Le dernier cas est celui d'hier à Mabukulu, 27 km de Mambasa Centre, où un agriculteur a été découpé à la machette. Une situation qui pousse de nombreux habitants à se concentrer dans les centres du territoire. Les points avec Ezekiel Mouzalia.
Depuis presque 2 semaines, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs villages situés le long de la route Komanda Mambasa. D'après des sources concordantes, c'est suite aux incursions répétitives des rebelles des ADF qui migrent dans une grande partie au sud-ouest des Babila Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Nos sources indiquent que c'est par exemple le village Bandi Kongo, Kundala Kundala, Mbenzu, où 8 personnes, à majorité des pygmées, ont péri vendredi dernier dans une attaque de ces hommes armés qui venaient d'être pourchassés par l'armée à Lolwa. La nouvelle société civile de Mambasa indique que, dans le regroupement à Mabuluki et Masiliko, ces inciviques ont tué une personne hier à la machette, ce qui a créé une psychose dans la zone. Selon le coordonnateur de cette structure citoyenne, au moins 20 personnes sont mortes au cours des 6 attaques que ces rebelles ont déjà signées dans les villages Manya, Lolwa, Bengasoli, Masiliko, Mabuluki, Lumalisa, Bungwe et dont une grande partie se regroupe à Mambasa Centre. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée ni de l'administrateur du territoire à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des ministres vendredi dernier de la situation qui prévaut au Nord Kivu concernant le décès le 15 août dernier d'un cas suspect de la maladie à virus Ebola. Docteur Jean-Jacques Mbungani a rassuré que des actions urgentes ont été entreprises, notamment l'investigation approfondie par l'équipe cadre de la zone de santé de Beni, dont le listage des contacts, la décontamination à l'hôpital général et dans la communauté. Entre-temps, l'OMS annonce que 2 traitements existants réduisent considérablement la mortalité liée à la maladie à virus Ebola. Elle recommande fortement son administration à toutes les personnes qui souffrent de cette fièvre hémorragique. Alain Hirung pour les détails.
C'est la première fois que l'OMS fait des recommandations de traitement relatives à Ebola. Dans ses lignes directrices publiées vendredi, l'organisation fait une recommandation forte pour le traitement par MAB114 ou par REGNEB3 chez les patients atteints de la maladie à virus Ebola. Elle fait cette même recommandation pour les nouveau-nés dont l'atteinte par la maladie à virus Ebola n'est pas confirmée, âgés de 7 jours ou moins, nés des mères atteintes de maladie à virus Ebola confirmée. Le MAB114 est un anticorps monoclonal commercialisé sous la marque Ebanga et le REGNEB3 est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Ces deux traitements ont été approuvés fin 2020 par l'Agence américaine des médicaments et sont déjà utilisés pour traiter des malades d'Ebola. Les patients doivent recevoir les anticorps monoclonaux neutralisants recommandés dès que possible après la confirmation du diagnostic en laboratoire, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Les études ont montré que les deux traitements réduisent considérablement la mortalité liée à Ebola, a indiqué la responsable de l'équipe clinique à l'OMS, Jeannette Diaz, lors d'un point de presse à Genève.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a aussi précisé que le stock de vaccins contre cette épidémie est disponible dans la province du Nord Kivu. Un plan de riposte est en instance d'exécution. En attendant les résultats des séquençages devant permettre de déclarer officiellement l'épidémie dans cette zone de santé et de la classifier, le gouvernement recommande la prudence à la population de cette partie du pays. Et dans la province de la Tchopo, le programme élargi de vaccination organise la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont attendues au cours de cette campagne. La cérémonie officielle a été présidée hier samedi par le vice-gouverneur de province à la place des Martyrs dans la commune de Makisso. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Les personnes ciblées sont celles âgées d'au moins 18 ans. Elles représentent 45% de l'ensemble de la population tchopolaise, estiment les organisateurs de cette campagne. Le vice-gouverneur de province a à cette occasion loué l'implication du gouvernement congolais dans la lutte contre la COVID-19. Paulin Lendongolia a par la suite invité la population de la Tchopo à se faire vacciner afin de participer efficacement à cette lutte. Pour sa part, le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani a révélé les statistiques des cas de la COVID-19 en RDC en général et dans la province de la Tchopo en particulier. Selon Mokhtar Khan, 89 264 cas confirmés, dont 13 338 décès, ont été enregistrés dans l'ensemble du territoire national. La province de la Tchopo a quant à elle notifié 1885 cas contre 47 décès. Il a à cet effet souligné l'importance de la vaccination contre cette pandémie. L'objectif poursuivi, a déclaré le chef de bureau de l'UNICEF, est de éradiquer la propagation de la COVID-19 afin de permettre à la population congolaise de retrouver son mode de vie d'avant l'éclatement de cette maladie. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, 73 sages-femmes ont prêté serment hier samedi. Ces finalistes de l'Institut supérieur de technique médicale, ISTEM, de la deuxième promotion des infirmières reconverties en sages-femmes, sont désormais membres de la Société congolaise de la pratique sages-femmes, SCOSAF Maniema. Ces sages-femmes qui ont reçu la bourse de l'organisme Tsandrou dans son projet Bomoi vont désormais travailler comme prestataires dans l'Institut tant public que privé. C'est là, selon leur encadreur, pour réduire les taux élevés des décès maternels et néonatal dans la province du Maniema. Des détails avec Florence Kizalunga.
Je promets et je jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de ma profession. Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de la santé des mères, de l'enfant et de la famille.
Ces promesses faites solennellement et librement sur l'honneur engagent ces sages-femmes à n'œuvrer que dans le respect de la dignité humaine. Cependant, le président de SCOSAF Maniema, Maoucha Marcel, formule ses plaidoyers.
Les sages-femmes présentes ici profitent de cette occasion pour vous présenter leur grand plaidoyer qu'elles adressent à tout intervenant ayant une action de près ou de loin dans la santé génétique et la cible RSMNA de vous impliquer totalement pour permettre à la SCOSAF d'assurer le suivi, l'encadrement et la capacitation de ces sages-femmes que vous êtes en train de vivre leur prestation de serment aujourd'hui.
Le représentant de l'autorité urbaine, lui, a plaidé pour que ce serment ne soit pas un trompe-l'œil, mais plutôt une réalité pour sauver les vies des femmes dont la plupart accouchent dans des conditions très difficiles. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Une activité socioculturelle a réuni une centaine d'enfants de la commune de Kimbanseke dans le but d'apprendre l'hymne national à Lingala. Une initiative de son coordinateur Moïse Edimon qui prône l'éducation des enfants en langue nationale. C'est pour leur propre épanouissement intellectuel, a déclaré ce dernier. Plus de détails avec notre reporter Kelly Oka.
Nous ne sommes pas dans une salle de classe d'une école primaire, mais plutôt dans l'enceinte d'une parcelle à Kinshasa, dans la commune de Kimbanseke. Chaque samedi, des centaines d'enfants sont réunis autour de leurs enseignants et coordonnateurs de l'ASBL Toikola pour des activités ludiques en Lingala. Pourquoi le choix de l'hymne national en Lingala? Moïse Edimo Lumbidi explique.
L'enfant comprend la profondeur. Quand on dit « Télémamouana Congo », on ne dit pas à quelqu'un d'autre. On dit à toi, l'enfant du Congo, lève-toi et va bâtir ton pays.
Une rencontre appréciée par ces jeunes élèves.
J'ai appris l'hymne national en Lingala. Télémamouana Congo, Télémamouana Congo.
C'est sous une note patriotique que la rencontre s'est clôturée avec le debout congolais mis en valeur en Lingala.
Actualité internationale.
Décédé en Espagne le mois dernier, la dépouille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est arrivée hier soir à Luanda. Au pouvoir pendant près de 40 ans, sa famille se déchire autour des funérailles qui auront lieu dans la capitale angolaise. Il faut dire que la veuve Ana Paula dos Santos faisait face à l'opposition farouche de sa belle-fille, Tizé dos Santos, qui souhaitait une inhumation en Espagne. Pour l'heure, peu d'informations circulent sur la tenue des funérailles.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination au Nord Kivu. Dr Hans Batei s'est réjoui du bilan satisfaisant de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Nord Kivu. Dr Hans Batei s'entretient à ce sujet depuis Goma avec Denise Loukesso.
Docteur Hans Batei, bonjour.
Bonjour madame.
Le 8 août dernier, vous avez lancé la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Où en êtes-vous aujourd'hui?
Nous avons lancé notre deuxième phase ici à Goma pour les 34 zones de santé et 637 aires de santé où on a vacciné la population des 18 à au-delà. Bien qu'on ait eu assez de défis communicationnels et logistiques, le bilan semble être amélioré. On a vacciné déjà plus de 30 000 personnes qui ont reçu le vaccin contre COVID-19, ce qui est déjà bon. Et nous allons continuer en mode routine. On a autour d'une quarantaine d'équipes qui vont vacciner en mode routine dans les trois villes. L'autre trimestre, une autre phase qui va suivre.
30 000 personnes vaccinées au Nord Kivu pour cette deuxième phase, sur combien qui était attendu?
On avait le cible de 20% de la population de 18 ans et plus, donc autour de 900 000 attendus. Mais chemin faisant, nous pensons que d'ici fin 2022, nous allons vacciner cette population.
Et comment vous jugez ces résultats de cette deuxième phase par rapport à la première?
Par rapport à la première phase, on était pratiquement dans les 28 000. Et à la deuxième phase, on est déjà dans les 30 000, c'est déjà bon. Et on a enregistré aussi moins d'hésitation maintenant à la vaccination. C'est essentiellement les aspects communicationnels qu'on doit renforcer dans des phases à venir pour que la population s'approprie cette intervention.
Qu'est-ce qui a contribué à l'amélioration des résultats de cette deuxième phase par rapport à la première?
C'est d'abord les autorités, ils se sont appropriées l'intervention. L'autorité a fait le message à tous les administrateurs et les bourgmestres pour s'impliquer dans cette intervention. Mais il fallait utiliser d'autres canaux, notamment des canaux traditionnels comme les relais communautaires, les CAC, les cellules d'animation communautaire. Et malheureusement, on n'a pas pu être partout. Ça s'est focalisé dans quelques zones de santé. Ça, c'est parmi les défis qu'on a observés. Mais aussi, comme vous le savez, les mouvements de la population liés à la situation du moment. Dans Rwanguba, par exemple, Rutshuru, on a eu quelques soucis liés à ça. Mais aussi, tout ce qui était comme manifestation, c'est la période où on avait toutes ces manifestations. Et on a fait la campagne dans des conditions comme ça. Et ce sont des défis qu'on a observés. Et nous nous préparons probablement le trimestre qui va arriver pour organiser la phase suivante.
Vous parlez de défis logistiques, lesquels par exemple qui vous ont limité dans les travaux?
On a eu des problèmes de déploiement, il y a eu quelques outils qui sont arrivés en retard. On les a déployés avec retard aussi. Ça a perturbé aussi la situation. Vous savez, nous avons des zones d'accès difficiles aussi où il faut au moins 7 jours avant que les intrants y arrivent. Mais il y a eu des intrants qui sont arrivés au début même du lancement et c'était un problème. problème.
Est-ce que Covid existe encore pour qu'on parle de la continuation du vaccin?
Jusque-là, la pandémie existe et on a continué à notifier des cas de par le monde. C'est la cinquième vague qui continue. Et il y a des cas, même ici dans le Nord Kivu, on continue à enregistrer des cas de Covid-19.
Combien de cas que vous avez notifiés et sur quelle période, précisément où?
D'abord, il faut savoir que la province du Nord Kivu vient en deuxième position en termes de cas, en termes de la morbidité, après Kinshasa. Kinshasa est dans les 50 000 cas. Nous sommes à plus de 10 000 cas notifiés au Nord Kivu. En termes de mortalité, le Nord Kivu vient en première position sur l'étendue du pays. L'ensemble du pays a notifié autour de 1 300 cas. Et le Nord Kivu, lui seul, on est dans les plus de 500 décès sur l'ensemble de 1300. Donc le Nord Kivu vient en tête en termes de mortalité contre Covid. Donc c'est une maladie qui existe et vous devrez être protégé en vous faisant vacciner et respecter les mesures barrières.
À cette deuxième phase qui vient de se clôturer, vous avez senti encore des résistances auprès de communautés?
Moins de résistances dans la communauté, moins d'hésitation vaccinale dans la communauté. La population a besoin seulement de l'information. Et c'est ça qui a manqué et nous pensons renforcer ça à la phase suivante pour que la population soit suffisamment informée et s'approprie la vaccination contre Covid.
Et c'était l'invité de ce journal, le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination en Nord Kivu, Dr Hans Batei, était avec Denis Loukesso. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.